bonjour à chacun de vous. Nous nous retrouvons une fois de plus pour méditer un texte biblique. Et le passage de l'Évangile de Luc, chapitre 13, versets 1 à 4, a été étudié en groupe de prière. C'est un texte difficile, sa lecture a de quoi rebuter, nous n'étions pas trop de 10 personnes pour en trouver le sens. Aussi, ne coupez pas votre poste aussitôt après la lecture, s'il vous plaît. Luc 13. À ce moment, survinrent quelques personnes qui racontèrent à Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Jésus leur dit : « Croyez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes ? Non, pas du tout. Mais si vous ne changez pas, vous périrez tous de la même manière. » Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est écroulée sur elles. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, pas du tout. Mais si vous ne changez pas, vous périrez tous.
Thank you.
Jésus est interrogé sur un massacre perpétré par un gouverneur romain de Judée et sur l'interprétation que l'on doit en faire. Comme souvent, Jésus ne répond qu'en partie et déplace la question après avoir abordé un autre fait divers, celui de Siloé. Jésus commence par une réponse claire. Ni les Galiléens, ni les passants de Siloé n'ont mérité leur sort. La suite est plus dérangeante pour nous, puisqu'il nous faut impérativement changer si nous ne voulons pas disparaître. Commençons par examiner ce pas plus coupable que les autres. Il est important de définir les malheurs dont parle le texte. Il s'agit de faits qui tombent sur les gens sans qu'on puisse établir une responsabilité des victimes. Jésus ne nous dédouane pas des conséquences de nos actes mauvais. Si nous nous mettons nous-mêmes dans une situation tordue, nous en assumerons les résultats. Ici, examinons le cas de ces Galiléens. Les Galiléens étaient mal vus par les Juifs. Il est assez probable que ceux qui interpellent Jésus ont en tête que les malheureux ont fait quelque chose qui a déplu à Dieu, et que leur mort est une punition. Or, Jésus coupe court à toute condamnation de ce type. Pensez-vous qu'ils aient été de plus grands pécheurs ? Pas du tout. Ils ont été massacrés par Pilate, par un pouvoir politique aveugle et sadique. Pilate, c'est Poutine ou tout autre pouvoir tyrannique. Ne pensons pas que les Ukrainiens soient aujourd'hui de moins bons chrétiens que nous, ou que les pays du Sahel qui s'effondrent sous les coups du terrorisme, loin des médias occidentaux, aient mérité leur sort. Jésus est formel. Les violences politiques ne sont pas une conséquence des péchés du peuple. De même, les 18 victimes de l'effondrement de la tour de Siloé n'étaient pas plus coupables que les autres habitants de Jérusalem. Ici, ce sont probablement des passants juifs qui ont été tués. Appartenir au peuple élu ne les a pas protégés. La tour de Siloé représente tous ces malheurs qui frappent au hasard. Un tremblement de terre, une maladie, un accident, cette fatalité qui vous tombe dessus. Et Jésus encore coupe court à toute interprétation divine de la catastrophe. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, il me semble. Notre Dieu ne nous guette pas pour nous punir. Mais alors, si nous n'y sommes pour rien, pourquoi Jésus répète-t-il cet avertissement terrible « Si vous ne changez pas radicalement dans certaines traductions, vous disparaîtrez tous pareillement ».
Thank you.
De quel changement parle donc Jésus ? Et d'abord changer, qu'est-ce à dire ? Le mot est le même qu'en Matthieu 3. Changer, car le royaume des cieux s'est approché. Le terme grec est métanoïa. Méta, comme dans métamorphose. Noïa, c'est le siège de la pensée, de la volonté. Jésus nous appelle à une transformation du cœur, de l'attitude intérieure, de notre conduite, ce qu'on traduit habituellement par conversion. On pourrait dire aussi un changement à la racine. Que devons-nous déraciner de nos vies, alors ? Que veut nous enseigner le Seigneur avec ses exemples des Galiléens massacrés et de l'accident de Siloé ? D'abord, nous avons à changer notre discours sur Dieu. Lorsqu'un malheur nous frappe, n'avons-nous pas cette question en tête « Mais qu'ai-je fait à Dieu pour mériter ça ?» Une telle pensée rabaisse Jésus-Christ, mort par amour pour les hommes, au rang des dieux gréco-romains, rancuniers, perverses. Prenons garde à ne pas mal parler de Dieu. Souvenons-nous du récit d'Élie. Dans l'Ancien Testament, premier livre des Rois, chapitre 19, le prophète Élie est pourchassé par la reine Jézabel. Il s'enfuit et se cache. Il est si désespéré que Dieu lui-même s'approche de lui. Mais le Seigneur n'est ni dans la tornade, ni dans le séisme, ni dans l'incendie qui le précède. Dieu est dans le souffle fragile, comme le chante un cantique. Une parole d'amour qui se donne et relève l'homme.
Thank you.
Ensuite, nous avons à cesser d'accuser les autres ou d'accuser Dieu des malheurs et plutôt à changer nos propres certitudes. Une bonne pratique religieuse comme celle des Galiléens qui offraient tout simplement leur sacrifice selon les rituels, une bonne pratique religieuse n'est pas une assurance porte-bonheur. Jésus ne nous promet nulle part d'être épargné. Par contre, il nous promet d'être à nos côtés, dans les difficultés. Encore faut-il que nous lui laissions une petite place dans notre vie. C'est le sens de la tour de Siloé. Siloé, c'était une des tours d'enceinte de Jérusalem. Ce rempart était censé protéger les habitants. Pourtant, par sa chute, la tour les a tués. Ainsi, nos « forteresses », entre guillemets, nos précautions peuvent s'avérer inutiles. Un bon compte en banque, une pratique régulière du sport, un régime bio, de bonnes études pour nos enfants ne nous permettront pas toujours d'échapper aux soucis. Tout cela peut être légitime, mais ne doit pas nous faire oublier Dieu. Troisièmement, nous avons à changer notre rapport au temps. Les passants de Siloé vaquaient à leurs occupations. Ils avaient la vie devant eux. Et tout s'est arrêté brutalement. Il y a là un avertissement pour nous. Le psaume 90, verset 12, prie « Enseigne-nous à compter nos jours, que nous nous conduisions avec des cœurs sages. » Prenons-nous le temps de poser chaque journée devant Dieu. Quelle place ai-je laissée à l'Évangile aujourd'hui? Car si nos péchés ne sont pas responsables de tous les malheurs du monde, nous avons bien une responsabilité vis-à-vis des victimes de ces malheurs. Que puis-je faire, moi, pour atténuer les souffrances du monde? Suis-je assez disponible pour les autres qui souffrent, disponible en temps, disponible par mes biens. Je cite l'Épître aux Galates, chapitre 6, versets 9 et 10. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps voulu si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, œuvrons pour le bien de tous. » Ne croyons pas que Dieu nous demande des œuvres extraordinaires. Quiconque donnera à boire une simple coupe d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense, explique Jésus dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 42. Thank you. Ainsi, pour résumer ce texte difficile, Jésus nous appelle à ne pas juger les autres, les Galiléens, en fonction de ce que nous croyons en comprendre, à ne pas toujours chercher un coupable, ni chez le voisin, ni en Dieu, à renoncer à nos assurances et à nos précautions, comme Siloé, pour lui faire une place dans notre journée, pour donner du sens à notre vie. « Toi, suis-moi », dit Jésus à chacun de nous. Comme Nicodème qui demandait à Jésus « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Nous devons naître de nouveau, naître à l'amour de Dieu, naître à l'amour du prochain. Et ça, c'est une bonne façon de ne pas disparaître. Amen.